Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons l'infime plaisir de recevoir notre ami et confrère Claude Boschurberg, auteur de l'ouvrage sur Henri Seidenberger, l'ultime, qui vient de paraître aux éditions des Fils et filles des déportés juifs de France. Bonsoir Claude.
Bonsoir Sandrine.
Inutile de vous présenter aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom, vous êtes ici chez vous, vous y présentez depuis plusieurs années l'émission Mémoire et Vigilance, vous êtes par ailleurs responsable de la page Mémoire d'Actualité Juive, vous revêtez de nombreuses casquettes puisqu'à votre actif vous avez ce rôle d'ostéopathe, de médecin, de journaliste, alors ostéopathe psychosomaticien et enseignant et puis journaliste, ce qui vous a valu de faire de nombreux livres sur ces deux thématiques, l'ostéopathie et la mémoire. Et votre actualité, c'est donc la parution d'un livre consacré à Henri Seidenberger, l'ultime, c'est le titre du livre, au travers du récit de la déportation d'un des derniers survivants des camps, et le seul du convoi numéro 73, c'est le récit de votre engagement que vous offrez au lecteur, parce qu'Henri Seidenberger n'est pas n'importe quel déporté, il a été le compagnon de malheur, selon votre expression, de votre père, Maurice Boschurberg. Oui. Déjà, Claude, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cet ouvrage ?
Alors la genèse de cet ouvrage, c'est une injonction morale. C'est comme ça que ça intervient, c'est-à-dire le fait que on fait le point, je dirais, sur sa vie, et puis on s'aperçoit que vous venez de le citer. Il y a mon travail, bénévole bien sûr sur l'antenne de Radio Shalom, où depuis 1981, donc ça fait maintenant des décennies. Je recueille le témoignage des survivants des camps. On peut dire que beaucoup sont passés donc à cette antenne de Radio Shalom. Et puis, un jour, on se retourne comme ça et on se dit, mais au fond, on est dans une période pathétique. Pathétique pourquoi ? Parce que, en fait, la mémoire orale des survivants, elle s'en va. Et puis, on va passer progressivement à l'histoire. Et l'histoire, c'est une histoire froide, c'est une histoire de documents, mais on n'entend plus la voix des témoins. Et il m'est apparu que Henri Seidenberger, était ce survivant du convoi 73, le convoi de mon père, un convoi atypique du reste, et que je ressentais l'injonction morale, au fond, de laisser une trace, non seulement de son parcours, mais en même temps de la proximité que pendant des années, j'ai entretenu avec lui, parce que, au fond, cet ultime survivant me rattachait, me liait à mon père, qui faisait partie de ce convoi, et que dans ce sens-là, il était celui qui portait une mémoire trace, même si sa propre mémoire s'était effacée au cours du temps, il n'empêche qu'il y était. Ses yeux avaient vu, il avait entendu, il avait été le témoin de l'horreur, et que dans ce sens-là, il y avait cette proximité tout à fait étrange qui me reliait à lui d'une manière, parentale. Un peu comme si, au fond, il portait non seulement la voix de mon père, mais bien sûr la voix de tous les déportés du convoi 73 qui était au nombre de 878. Et au lendemain de la libération, ils étaient 22. Et au cours du temps, ils ont disparu progressivement. Et aujourd'hui, il est le seul. Et vraiment, c'était pour moi une sorte de défi de revenir sur son parcours et montrer que non seulement il était témoin, de cette histoire, mais en même temps, un homme engagé très activement avec les fils et filles des déportés juifs de France, donc autour des Klarsfeld, parce que cet homme-là n'a jamais abdiqué d'une certaine manière. Et après ma rencontre en 1983, on va peut-être s'en expliquer, à ce moment-là, il est entré, dans la sphère des fils et filles pour lutter contre l'oubli et d'une manière, extrêmement active. Et c'est ça qui me paraissait important, c'était de montrer le témoin, de rendre, l'itinéraire du témoin, sa trajectoire, mais en même temps, montrer qu'il avait une attitude exemplaire.
On le devine en vous écoutant dans vos ouvrages, et notamment les plus récents, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Il y a une lecture littérale, apparemment la biographie d'un ancien déporté. Il y a une autre lecture, c'est retrouver les liens qu'il a avec vous et sans doute votre engagement. Et puis, de manière très claire, eh bien, un niveau éthique, une résonance entre toujours les textes peut-être et avec l'impérieux devoir hein, du Zahor et puis cette résonance dans l'universel, cette éthique qui est peut-être la marque aussi de chacun de vos ouvrages. Et si vous me permettez, je vais vous lire dans l'avant-propos, puisque vous résumez la naissance de ce projet et puis le lien familial que vous avez noué avec Henri et en même temps ce message qui est porté à travers le militantisme. Je vous cite « Cet ouvrage revient sur son parcours durant la Shoah, mais au-delà, il explore les résonances existentielles nées de ma proximité avec Henri, lui ce rescapé du pays des morts qui lutte depuis des décennies pour que le monde sache. » Un voyage sur les berges du passé et du présent, entre ombre et lumière, un hommage rendu aux magnifiques militants disparus en lien fraternel avec Henri, Serge et Beate Klarsfeld.
Oui.
C'est important pour vous à chaque fois de démultiplier les regards et les niveaux de lecture ?
Oui, c'est pas à vous Sandrine que je vais apprendre ça, parce que vous-même, vous êtes une experte, je dirais, dans les différentes strates des textes. Mais effectivement, je dirais que, et ça me fait plaisir de voir que vous avez bien perçu, je dirais, la quintessence du message, c'est que au fond, il n'y a pas de travail pour moi sur la mémoire sans, je dirais, qu'elle soit liée, cette mémoire, à l'éthique. C'est, je dirais, mémoire et éthique, ça fonctionne d'une manière étroite avec mémoire, éthique et vigilance, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, au fond, se porter sur la trace pour laisser une trace pour l'avenir, eh bien, c'est précisément lutter, je dirais, contre la mort. Et au fond, ce que nous apprend la tradition juive, c'est tu choisiras la vie. Dans toutes circonstances, tu choisiras la vie. Dans ce sens-là, faire un texte, c'est choisir aussi la vie. Parce que, en réalité, c'est aussi bête que ça. Une histoire n'existe qu'à partir du moment où elle est racontée. Sinon, elle passe aux oubliettes. Or, celui qui écrit, qui fait un texte sur la mémoire, trait d'union, l'histoire également, parce que les deux vont ensemble, eh bien, d'une certaine manière, et il s'inscrit dans le projet juif. Le projet juif, c'est, en fait, d'être toujours dans le choix de la vie, raïm, quoi que l'on fasse. Et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir entendu de votre bouche effectivement, ces quelques lignes, parce qu'elles situent bien le projet, et en même temps, il se relie ce projet avec Henri et les fils et filles, parce que bien entendu, le combat des Klarsfeld avec les fils et filles, eh bien, c'est un combat éminemment éthique, mémoire et justice. Ce n'est rien d'autre qu'un combat éthique.
Alors, on va revenir hein, oui. sur cette question dans un instant. Auparavant, pour être tout à fait clair, le paradoxe, finalement, de la destinée d'Henri, c'est qu'il ne se rappelle plus de votre père.
Oui, non seulement il ne se rappelle plus de mon père, mais il ne se rappelle pratiquement plus de l'ensemble des compagnons. Il y a quelques compagnons, peut-être, autour de lui. Bon, je voudrais citer Maurice Tattelbaum, qui est cet homme qui avait déjà un certain âge, qui l'a protégé durant toute sa déportation. Et vraiment, Henri ne l'a jamais oublié, puisque d'une certaine manière, il lui doit la vie. Mais pour le reste, il est malheureux de dire, je ne peux pas me souvenir des uns et des autres, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il était adolescent, qu'il était, plongé dans le monde de l'horreur et que, en fait, il fallait se faire tout petit d'une certaine manière pour éviter les coups, pour passer entre les gouttes de manière à survivre. Et lui, sa proximité de survie, c'était vraiment Maurice Tattelbaum, peut-être un ou deux ou trois personnages autour de lui, mais malheureusement, sa mémoire ne peut pas restituer, je dirais, les visages et les identités de ceux qui faisaient partie du convoi. Il en est malheureux, ça c'est sûr.
Et votre rencontre lui a fait beaucoup de bien aussi, puisqu'à partir de celle-ci, il a commencé à témoigner, à militer. Quand est-ce que vous l'avez rencontré ?
Alors je l'ai rencontré sur l'antenne. Je le rencontre sur l'antenne. Il y avait à ce moment-là une amie de Milo Adonair, Marthe Stenberg, je vais la citer parce que, de mémoire bénie, elle avait son frère qui faisait partie du convoi 73, et c'est elle qui, dans son lien avec Milo Adenauer, m'avait à ce moment-là dit qu'il y avait un survivant de ce convoi. Donc, je le contacte. Ça se passe en 1983, et on peut dire que je fais sa connaissance sur l'antenne. Et là, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. C'est que quand on est aux manettes d'une émission, il faut bien,
assurer,
voilà, ouais. Je ne trouvais pas mes mots, assurer. Mais là, j'ai été rattrapé par l'émotion, bouleversé, j'étais devenu aphasique. Et lui, c'était pareil.
Et votre mère écoutait?
Alors, ma mère était présente aussi, oui. Parce qu'elle voulait avoir aussi des informations sur son mari, hein, mon père. Et on est sur l'antenne. Et
vous le racontez, il se passe quelque chose d'incroyable.
Voilà.
Et finalement, il y a encore une fois une double relation à la fois réciproque. C'est que vous lui permettez de libérer la parole. Et puis vous retrouvez en lui une figure paternelle. Et grâce à ça, commence un engagement d'une vie comme témoin et militant,
oui,
aux fils et filles.
Oui, c'est figure paternelle, peut-être pas paternelle, mais porteur d'une trace. C'est-à-dire que je fais connaissance avec un homme revenu du pays des morts, quoi. Pays des morts où mon père s'est trouvé. Mon père, nous étions réfugiés donc à Marseille en avril. À ce moment-là, on est en avril 44. Et puis mon père, malheureusement, ce jour-là, avait pris une veste avec la mauvaise carte, tamponnée juif. Et puis, des miliciens corses sont venus dans le magasin où il travaillait. Ils venaient chercher le patron du magasin. Et en fait, mon père a dit non, il n'est pas là, mais qui êtes-vous? Et c'est comme ça qu'il s'est fait malheureusement arrêter. Et puis, il s'est retrouvé au Baumettes, après les Baumettes, donc à Drancy. Et il part donc le 15 mai 1944 par ce convoi. Et donc, Henri était celui qui était revenu de ce terrible convoi. Et ma rencontre avec lui, à ce moment-là, il y a quelque chose de difficile à décrire. C'est au fond, il y a une attente, il y a une fièvre de se dire, mais au fond, peut-être qu'il va nous raconter quelque chose pour nous resituer dans ce destin a posteriori, de manière à partager quelque chose de posthume avec celui qui n'est plus. Et puis, même s'il ne peut pas répondre, il n'empêche, encore une fois, qu'il y était et que dans ce sens-là, c'est Barthes qui nous apprend ça, Roland Barthes, c'est que lui qui était passé par exemple dans un sanatorium, et dans ses écrits il dit « Comme je suis passé autrefois dans un sanatorium, mon corps est devenu historique en quelque sorte, puisqu'il porte la trace de l'histoire, en fait, qui fait dire que j'y étais. » Et pour Henri c'était la même chose, il y était, et qu'à ce titre-là, ça suffisait pour qu'il devienne à ce moment-là un personnage existentiel. Puisqu'il me reliait, au passé, mais au prisme du présent et je dirais dans l'avenir, puisqu'on allait ensemble, et surtout lui, me rattraper pour commencer un engagement avec les fils et filles.
Cette mémoire trace dont vous parlez, qui l'incarne totalement. Alors évidemment, il y a l'histoire particulière de cet homme déporté dans les Pays-Baltes. Et finalement, on apprend beaucoup de choses. On apprend ces camps particuliers que vous appelez les abattoirs, parce que très peu de survivants en sont revenus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces camps des Pays-Baltes?
Alors, les camps des Pays-Baltes, c'est-à-dire, ça c'est d'abord, le convoi, lui, va être séparé en deux. Il faut rendre hommage à Serge Klarsfeld, parce qu'en 1978, lorsqu'il publie le célèbre mémorial des déportés juifs de France, d'abord c'est là que je découvre l'itinéraire de mon père. Avant, on avait comme ça des informations, mais qui n'étaient pas précises. Là, je découvre l'itinéraire de mon père à ce moment-là, et dans ce texte, Serge Klarsfeld montre que le convoi est séparé en deux, c'est-à-dire la moitié des hommes de ce convoi, les 878, les uns vont se retrouver à Kaunas, en Lituanie, dans ce terrible Fort Neuf, où les hommes pratiquement sont assassinés à l'arrivée, et puis l'autre, qui a eu plus de chance, qui va être, elle, qui va poursuivre son voyage en Estonie, dont fait partie Henri Seidenberger, et qui vont servir d'esclaves, notamment dans un terrain d'aviation pour aménager des pistes, etc. Donc voilà un peu comment se situe ce voyage au cœur des pays baltes, parce que on sait à ce moment-là, et c'est Klarsfeld qui nous l'apprend encore, c'est que un certain Blobel, donc nazi, à ce moment-là dans ces pays baltes, eh bien où la Shoah avait commencé depuis l'opération Barbarossa, comme vous le savez, au printemps 41. Eh bien, les Einsgruppen, à ce moment-là, abattaient non seulement la population juive, les villageois juifs, mais également les commissaires politiques communistes. Et ce Blobel en question, sa mission, c'était de concasser les os des victimes qui avaient été abattues dans les charniers. Et pas plus tard que il y a quelques jours, je recevais ici à cette antenne Patrick Desbois, voilà, qui fait ce travail magnifique pour
sur la Shoah par balle.
Donc, en fait, Blobel, sa mission, c'était de concasser les os. Et d'après Klarsfeld, en réalité, si ces hommes du convoi 73 sont venus dans les pays baltes, c'était précisément aussi pour certains de servir de main d'œuvre aussi dans cette affaire pour faire de la poudre d'os d'une certaine manière et nettoyer. Les terrains de l'extermination. Alors, voilà un petit peu le tempo historique, mais en fait, Henri, lui, va se retrouver plus tard, au Stutthof en particulier, parce que, il y a une mobilité qui va se faire, et puis, devant l'avance de l'armée soviétique, ensuite, il va se retrouver dans un autre camp, un camp terrible, à Rimno. Mais Stutthof, très intéressant aussi, parce que, et je le dis tout de suite, dans cet ouvrage, on va trouver ce reportage en quelque sorte que j'ai fait à ses côtés, puisque en février dernier, on se retrouve avec lui, sa femme, sa fille, Beat Klarsfeld et moi à Hambourg pour l'assister, l'accompagner dans le procès qui se tient à ce moment-là au tribunal de Hambourg contre l'un des gardiens de camp nazis, et où en fait, évidemment, il va témoigner de son passage au Stutthof, qui était aussi un camp absolument horrible, quoi.
Vous avez cité le nom de Serge Klarsfeld. Oui. Il vous a fait ce cadeau de préfacer cet ouvrage. Et on peut se poser la question, après tant d'années de militantisme, on a l'impression que les frontières sont floues aux fils et filles des déportés juifs de France. On ne sait plus qui soutient qui. Est-ce que c'est vous qui militez pour lui ou est-ce que c'est vous qui vous soutient?
Non, je dirais que, en fait, ça encore, c'est... Alors, bon, j'en profite pour le dire, l'amour que je porte, l'admiration que je porte au Klarsfeld. Ce sont des personnages de légende. Ils nous ont tout appris. On peut dire que dans leur périphérie, dans leur proximité, on a pu exorciser nos chagrins. Il faut savoir que la famille des fils et filles, elle est tout sauf triste, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'avoir affronté la mémoire, d'avoir affronté, je dirais, pendant tant d'années, ce combat de mémoire, de justice, je voudrais quand même rappeler qu'au-delà du travail sur la mémoire, il y avait le travail à l'encontre des nazis, des collabos. Ça nous a terriblement rapprochés. Ça a créé des liens, indicibles, difficiles à expliquer. Mais qui soutient qui? C'est notre famille, c'est ma famille. Et je dirais que c'est vrai que c'est... Vous avez raison de le noter, dans le fond. C'est perméable dans les deux sens. C'est perméable dans les deux sens. Bravo, c'est vrai. Parce que, en fait, on se soutient. Parce que, en fait, on est près les uns des autres. Et parce que, en fait, on se soucie des uns des autres. Dans ce livre, je ne cache pas que je me soucie de la santé d'Henri. Je me soucie de la santé de Serge et Béate. Nous n'allons pas en rajeunissant. et que, en fait, leur santé m'importe.
Et vos actions aussi leur importent, visiblement. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Claude Boschurberg, qui nous parle de son ouvrage « Henri Seidenberger, l'ultime », qui vient de paraître justement aux éditions des Fils et Filles, des déportés juifs de France. On a l'impression que l'ultime, c'est aussi l'ultime voix, peut-être des Fils et Filles et de vos ouvrages sur leur action militante. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour dresser une rétrospective ?
L'ultime voix, non. Je ne dirais pas l'ultime voix, parce qu'en fait, on n'est pas mort, hein, on continue. Hein. Je dirais que, bon, là, il y a eu cette période de confinement, mais dès que, en fait, il va y avoir cette possibilité de reprise sur le terrain... Tant qu'on aura la force, on sera là.
Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a un cahier photographique qui est absolument passionnant, avec des témoins, des actions, ce dernier événement dont vous parlez. Oui. Et on a l'impression que c'est aussi une sorte de regard porté sur l'action des Fils et Filles.
Indiscutablement, c'est aussi une rétrospective. Parce que, en fait, réfléchir sur la mémoire et le militantisme, en réalité, c'est un peu comme la psychanalyse et l'inconscient. C'est-à-dire que ça n'a pas de temporalité. Ça peut être hier, ça peut être aujourd'hui, c'est demain. Je veux dire, par là, on est militant en conjuguant tous les stades de la temporalité. Et effectivement, ce regard sur le militantisme, il ne peut pas occulter le fait que le militantisme est fait par des sujets, des individus, des hommes, des femmes. Et que la moindre des choses, c'était de revenir sur des actions qui m'ont semblé essentielles dans le militantisme autour des Klarsfeld, et en même temps de rendre hommage à des amis chers qui ont disparu, et dire que ça nous fait mal de savoir qu'ils ne sont plus là. Je pense à des amis chers comme André Chaumont, je pense à Georges Wojakowski, je pense à Maurice Lipp, je pense à tellement d'autres. Fanny Hochbaum, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, c'était des militants exemplaires, et ils devaient effectivement figurer aussi dans ce livre. Et du reste, il n'y a pas de secret, c'est que je voudrais simplement, d'une seconde, revenir un petit peu sur cette préface, et dire que, pour ne pas oublier, bien sûr, André Michin-Chaumont, Jacques Torros, bien sûr, Tommaso Sanzotto, Albert et Fanny Hochbaum, et bien sûr, notre ami cher que vous avez connu, Milo Adonner.
Tout à fait. Alors, vous citez ces anciens déportés. Vous l'avez dit, hein, on ne rajeunit pas. Oui. Une génération disparaît. Est-ce que ça vous inquiète que bientôt, il n'y aura plus les témoins directs pour porter la parole de la Shoah?
Oui, ça me fait mal. Ça me fait mal, je ne le cacherai pas. Parce que, en fait, effectivement, on va passer à un autre stade historique. Et que ça ne peut pas se faire, d'une manière facile. Il n'empêche que, j'ai envie de dire ça, mais ce serait pas du triomphalisme de ma part, bien sûr. Mais on a quand même notre conscience tranquille, quoi. La conscience d'avoir œuvré, la conscience d'avoir donné sa peine, d'avoir donné son temps, de manière, encore une fois, à faire trace. Et dans ce sens-là, je dirais que, c'est la vie. Hein, on va passer à bientôt, dans quelques années, le plus tard possible, j'espère, au stade de l'histoire cette fois-ci. Mais en réalité, il y a aussi des acquis. Et il faut saluer tous ceux qui militent autour de la mémoire, et que ce soit les institutionnels ou les amateurs, les historiens, etc. C'est qu'aujourd'hui, je dirais qu'un grand pas a été franchi sur le plan de l'institution mémorielle. Je pense par exemple au mémorial de la Shoah. Je suis en train effectivement de remettre des archives avec, je voudrais le dire parce que c'est tout à l'honneur de Radio Shalom, j'ai évidemment des centaines d'émissions, à la fois avec des cassettes, des DVD, mais également maintenant en numérique, qui sont remis au mémorial de la Shoah, qui fait un énorme travail, qui est un véritable laboratoire. Hier encore, je recevais à cette antenne Olivier Lalieu, qui nous a parlé des projets qui vont être en cours donc cette année, avec une gare mémoriale à Pithiviers, enfin beaucoup de choses. Ça fait chaud au cœur. Et puis, je dirais qu'il y a aussi Drancy, le mémorial de Drancy. Il y a évidemment le Cercil, maintenant, qui est amalgamé au mémorial à Paris. Tout ça fait que, en réalité, la mémoire est sauvegardée. Elle est sauvegardée et que dans ce sens-là, eh bien, je dois dire que... Et puis, évidemment, ne pas oublier le fait que Serge Klarsfeld, bien sûr, a remis un fonds, est en train de remettre un fonds énorme, immense d'archives qui, en fait, vont être, je dirais, extrêmement précieux pour la recherche mondiale. C'est quand même quelque chose d'incroyable. À lui tout seul, Serge Klarsfeld, c'est un fonds d'histoire et de mémoire qui est véritablement institutionnel, avec vraiment des pistes de recherche où il y en a encore pour des décennies de travail, après lui. Puisqu'on parle de l'avenir, j'espère que mes paroles sont retenues, mais d'ici quelques années, le plus tard possible bien sûr, on fera des doctorats en université sur la post-Shoah et le travail autour de Klarsfeld. C'est absolument évident. Et ma grande fierté, mon honneur, c'est qu'il a fait cette préface, bien sûr, mais mon nom est associé au sien quand, par exemple, il publie « Militer et témoigner » et qui reprend toute une somme d'articles. Et je dois dire que quand je vois ça, ça me rend fou de bonheur.
Et ça rassure sur l'avenir de la transmission. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
De lire ce livre, eh bien, c'est tout simplement, je dirais, un recueil et une transmission humaine. Et puis je rajouterais juive également.
Merci beaucoup, Claude, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir évoqué. C'est un plaisir. Donc, votre actualité, c'est donc la parution de cet ouvrage, Henri Seidenberger, l'ultime, préfacé par Serge Klarsfeld, qui vient de paraître aux éditions des Fils et Filles des Déportés Juifs de France. Merci et à très bientôt.